16h04, mardi 11 mai. Bonne journée, bienvenue au 98,5 avec une journée qui ressemble un peu à ce qu'on a connu hier, c'est-à-dire du soleil, des périodes nuageuses, disons, assez fortes, et 60 % de probabilité d'averse au cours de l'après-midi avec un maximum de 12 degrés en soirée. Ça demeure couvert, possiblement de la pluie, et le dégagement va se produire au cours de la nuit. Température autour de 5 degrés. À compter de demain, c'est vraiment une séquence de journées ensoleillées. Demain, c'est du soleil 17. Jeudi, c'est du soleil 22. Vendredi, 23. Puis c'est comme ça toute la fin de semaine. Il y a des passages nuageux, c'est sûr, là. Mais il n'y a pas de pluie de prévu avant le début de la semaine prochaine. Donc, mis à part aujourd'hui où il y a du temps gris, un peu de pluie, à partir de demain, c'est vraiment du temps ensoleillé. Deux nouvelles internationales pour commencer. D'abord, un dernier bilan concernant cette fusillade dans une école en Russie. On fait état d'au moins 11 morts et il faut dire d'entrée de jeu que même si on voit de nombreux cas malheureux aux États-Unis, c'est presque une habitude, une triste habitude, j'en conviens, là, mais de voir des événements violents puis des tireurs fous rentrer dans les écoles en Russie, c'est extrêmement rare. Donc, il semble qu'il y a au moins 9 personnes qui ont été tuées mardi lors de cette fusillade dans une école de Kazan, qui est une ville du centre de la Russie. Un des tireurs présumés, un adolescent, a été intercepté. Il serait également... un autre aurait été tué. Et il faut dire qu'il y a 8 élèves et un enseignant qui sont au nombre des personnes décédées. Il semble qu'on a réussi, en tout cas, à maîtriser un des suspects. Il n'y a pas d'autres précisions. On sait seulement que c'est un adolescent. Et que il faut savoir que, contrairement aux États-Unis, la circulation d'armes est extrêmement contrôlée en Russie. Par contre, dit-on, depuis les dernières années, le nombre d'événements violents dans les écoles a considérablement augmenté, que ce soit des armes blanches, que ce soit des gangs, des phénomènes qu'on voit en Amérique du Nord, qu'on voit aussi en Europe, ce sont des phénomènes également présents en Russie. Et puis, on surveille de près ce qui se passe du côté de la Palestine, d'Israël. L'escalade de violence s'est poursuivie. Dans les dernières heures, l'armée israélienne a dit avoir tué 15 membres du Hamas dans la bande de Gaza. Il y a eu des tirs, des frappes, et tout ça en réponse à des tirs de roquettes qui ont évidemment marqué la nuit là-bas. Selon le porte-parole de l'armée israélienne, il y a 130 cibles militaires identifiées au Hamas qui ont été touchées. Et tout ça en réplique, je vous le disais, à des roquettes qui avaient été tirées depuis la bande de Gaza. Officiellement, on fait état de 22 morts du côté des Palestiniens, 9 enfants. Et ce sont les frappes les plus meurtrières depuis déjà quelques années. Et ça fait déjà plusieurs jours qu'il y a cette confrontation sur ce qu'on appelle l'esplanade des mosquées. C'est un endroit, évidemment, un carrefour avec ce que j'appelle des symboles, autant pour les musulmans que pour les juifs. Et hier, on marquait, en fait, depuis quelques jours, on marquait ce qu'on appelle la journée de Jérusalem, c'est-à-dire une journée qui marque l'annexion du territoire par Israël. Et donc, il y a eu des affrontements extrêmement violents, 500 personnes qui ont été arrêtées, blessées. Il y a également des policiers israéliens aussi qui ont été blessés lors des affrontements. Alors voilà pour ce survol international. Maintenant ici, la vaccination, que dire? Ça va bien. Hein? On est souvent critique, avec raison, il faut être vigilant. Mais je dois dire que autant au niveau du nombre de personnes vaccinées, on aura les chiffres un peu plus tard ce matin, là on a hâte de voir, mais qu'on est à même de constater depuis les derniers jours avec les inscriptions, les plages de rendez-vous qui sont sollicitées, la campagne de vaccination va très bien au Québec. Et là, certains projettent, on est à 40-quelques pourcents là, des Québécois qui ont reçu une première dose. Est-ce que ça veut dire que, puisqu'on est le 11 mai, que, je ne sais pas moi, dans un mois, peut-être, on va atteindre le chiffre de 75%? On se le souhaite, parce qu'on voit que ailleurs, c'est associé à un retour à une certaine liberté, ou en tout cas, à retrouver des activités qui nous manquent tellement. Puis je vous donnerai l'exemple de la France tantôt, je peux vous donner des exemples ailleurs, mais... Alors, tout ça pour vous dire que, depuis une semaine, le Québec a administré 500 000 de doses de vaccins, et c'est vraiment un rythme. On souviens que le ministre Christian Dubé avait dit « Amenez-en des vaccins, on est équipé pour les donner. » Et dans tous les courriels que je reçois, puis vous savez, là, j'en reçois de tous les gens me parlent d'une expérience rapide, efficace et agréable. Tellement le personnel est d'une gentillesse aimable. C'est comme, et pour les gens qui reçoivent le vaccin, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup d'entre eux, c'est comme une espèce de moment de vérité en disant « j'ai franchi l'étape qui va faire en sorte que collectivement, on va être capable peut-être d'avoir un mois de juin plus agréable, puis surtout un été plus intéressant. » Donc, on le sait qu'il y a toujours ce délai de 2 semaines, c'est pour ça qu'il faut faire un certain nombre de calculs, mais disons que si la tendance se maintient, c'est une maudite bonne nouvelle. Il y a eu quelques endroits où ça a accroché un peu, il y a eu des délais, bon. Mais vraiment, là, on n'est pas pire pour se taper dessus, là. Il faut souligner 3 fois ce matin l'efficacité de cette campagne de vaccination. L'enjeu demeure les plus jeunes, c'est la semaine des jeunes. Alors, est-ce qu'ils vont se rendre nombreux? Il semble d'abord que ceux qui se sont inscrits dans les derniers jours, là, les 30 ans et plus, il y a un taux d'intérêt pour le vaccin qui est élevé, qui est encore là une très bonne nouvelle. En parallèle, je vous parlais de la compagnie Pfizer qui autorise, en fait, aux États-Unis, on autorise Pfizer pour les 12-15 ans. On avait déjà les 16 ans. Alors, on verra, j'imagine, cette semaine, le plan en éducation. Est-ce qu'on va être capable de vacciner dans les écoles d'ici la fin de l'année scolaire, la première dose? Il y a évidemment tous les jeunes qui travaillent dans des camps de jour, par exemple, qui vont devenir priorisés pour la vaccination. Et je vous donne un exemple, peut-être pour être plus précis. Hier, on a dit tous les bénéficiaires dans les centres de soins de longue durée ont reçu leur deuxième dose. Reste l'enjeu des résidences, les RPA, là, les résidences pour personnes âgées. Hier matin, je reçois un courriel d'une directrice d'une RPA qui me dit, « Monsieur Arcan, les gens ici ont été vaccinés, première dose, sur place, à la résidence. Il y a des gens qui sont venus pour ça. » Et là, on m'explique qu'il faut que je déplace tous les résidents vers un centre de vaccination pour la deuxième dose. Elle m'écrit ça hier matin. Hier après-midi, elle m'envoie un autre courriel pour me dire « c'est réglé ». J'ai eu un retour du 6 et ils vont venir pour la deuxième dose. Elle me remerciait presque d'être intervenu. J'ai rien fait, là. J'ai reçu le courriel, je l'ai lu, puis j'ai lu son deuxième courriel. Alors, il y a des ajustements qui sont possibles et tout ça dans l'intérêt des patients. Je pense qu'il faut le souligner ce matin. Dans les autres nouvelles, Radio-Canada nous parle encore de la qualité de l'air dans les écoles. Bon, on sait que c'est un enjeu important, puis qu'on doute des tests qui ont été faits, puis qui n'ont pas été approuvés par la santé publique. Puis le ministre Roberge pédale, rétro-pédale, puis disons qu'il est dans l'eau bouillante avec ça. Et là, ce qu'on apprend, c'est que les experts de la santé publique et de l'Institut national de santé publique ont eu une période de 2 heures pour commenter le protocole des tests. Rappelez-vous, quand on a rendu public les tests sur la qualité de l'air dans les écoles, plusieurs ont dit « Attention, là, c'est un bizarre de protocole. Pas certain que c'est nécessairement hyper rigoureux sur le plan scientifique. » Donc, ce matin, ce qu'on nous dit, c'est que non seulement ils n'ont pas été consultés comme tels, mais on leur a présenté finalement des tests. Puis on a dit, vous en pensez quoi? Rapidement. Puis c'est surtout pas des protocoles de santé publique. Donc, ça vient encore remettre en question la qualité de l'air dans beaucoup d'écoles du Québec. Et je vous donnais des exemples de pays où, comme la France, hier, on a annoncé la levée de certaines restrictions. C'est un calendrier. C'est un calendrier comme ça qu'on aimerait avoir au Québec, avec des dates puis des critères. Alors, par exemple, à partir du mercredi 19 mai, c'est la semaine prochaine, les terrasses de restaurants, de cafés, de bars pourront rouvrir à 50 % de leur capacité d'accueil. Des tables de 6 personnes au maximum. Les gens devront être assis. L'intérieur, pour l'instant, va demeurer fermé. Pour ce qui est des hôtels, les terrasses seront totalement rouvertes, en place assise uniquement. Et à l'intérieur, on va le permettre, mais pour les clients. Pour ce qui est des magasins, il y aura évidemment une ouverture plus importante, puis ce qu'on appelle la distanciation qui devrait être respectée. Pour ce qui est des cinémas, des salles de spectacle, c'est à peu près 35 % maximum de la capacité, avec un plafond de 800 spectateurs. C'est la même chose pour les salles de fête, les chapiteaux. les seuls festivals autorisés doivent se passer en plein air, assis, avec 30 % d'une capacité d'accueil normale, puis un maximum de 1000 personnes. Et tout ça associé à des cibles pour ce qui est, par exemple, la vaccination, pour ce qui est du nombre de cas de contamination, de capacité du réseau de la santé. Alors, c'est un calendrier progressif. Et puis, si tout se passe bien, ben, on prévoit élargir et augmenter, par exemple, de 35 à 65 % au cours des prochaines semaines. Je m'intéresse ce matin à deux dossiers. D'abord, les enfants, puis après, on va parler de la ligne bleue du métro. Je commence par les enfants parce qu'il y a trois éléments frappants. Le premier, je répète, le manque chronique de place en garderie. Deuxièmement, des enfants qui ont des problèmes, des enfants, des jeunes enfants autistes qui ont de la difficulté à se trouver des places parce que l'aide ne suit pas. Ils ont besoin de ressources additionnelles. Puis malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Puis dans Le Devoir, on nous explique que des pédiatres constatent une hausse du nombre d'enfants qui ont des problèmes de santé mentale. Puis là, ça va de l'anxiété à des troubles de comportement plus importants. Puis les pédiatres se disent incapables ou en tout cas mal à l'aise, trouvent ça difficile à gérer. L'anxiété, ça va, mais dès que ça se complique, et on sait c'est la même chose pour les adultes, pas de ressources suffisantes en pédopsychiatrie. Je commence pour ce qui est des places en garderie. Hier, on nous a dit, c'est le ministre, M. Lacombe, on va créer des places temporaires. On va construire des CPE, mais on sait que le processus est toujours assez long. Fait qu'on va, prendre des locaux dans d'une municipalité, d'un groupe communautaire, puis on va créer des places. Bon. C'est pas un milieu que je connais. Mais je reçois tellement de messages. J'aimerais ça que quelqu'un me dise, on peut-tu faire l'inventaire de toutes les places qui existent au Québec en garderie, là? Privées, subventionnées, pas subventionnées, puis bon. Combien de places sont libres? Puis combien de places on peut accorder à des parents? Parce que les parents se débattent pour trouver des places. Et c'est souvent compliqué. Ça, c'est la première question. Puis je vous dis, j'ai pas la réponse. Peut-être que c'est complètement fou ce que je vous raconte, mais je me dis, j'ai des propriétaires de garderies privées qui disent « on a des places », puis là, les parents hésitent, puis ils ne savent pas trop, puis les mécaniques. Ça a l'air tellement lourd, le ministère de la Famille. L'idée d'avoir un service de garde pour les enfants, c'est une merveilleuse idée. Mais la façon dont on gère ça, avec différents statuts, il y a des places là, mais en même temps, on va investir dans le béton pour construire d'autres CPE. Puis je sais qu'il y a eu des guéguerres idéologiques. À l'époque, le Parti libéral, puis on s'est entendu qu'il y avait des intérêts, c'est que les amis construisent des garderies. Puis au PQ, on disait non, puis c'est le mantra du CPE seulement. Puis il y a d'autres types de... Bon, alors, on peut-tu d'abord faire un inventaire qui est réel? Le ministre, il dit qu'on a besoin de 50 000 places. Il y a des registres où on nous dit que c'est 80 000 enfants, puis ça m'amène à vous parler de ce que la presse révèle ce matin au sujet d'une fuite massive de données. C'est le fameux guichet Place 05, où les parents s'inscrivent pour obtenir donc une place en garderie. Alors, ce guichet qui est géré par la coopérative Enfance-Famille a été ciblé par un pirate. Ça a commencé, semble-t-il, à 19h30 samedi. Et il est allé chercher ce pirate, et il avait l'air de savoir ce qu'il faisait, le dossier de Mathieu Lacombe, le ministre. Il y a un enfant à l'école, service de garde, un enfant en garderie, puis avec toutes les informations personnelles que ça suppose. Et donc, le dossier en question a été supprimé à 20h42. Et il semble que la personne, le pirate, on présume qu'il y a une personne, peut-être qu'ils étaient plusieurs, mais il faisait des captures d'écran, puis il a quitté à 22h22. Alors, puis là, il est allé chercher des données. Il y a 5000 dossiers qui ont été téléchargés. Puis on retrouve le nom du parent, son numéro de téléphone, son adresse de courriel, son nom d'utilisateur, sa date d'inscription. Ça fait quand même pas mal de monde. La Sûreté du Québec enquête, la GRC enquête, enquête criminelle. Puis là, il y a toute la notion de sécurité du ministre dans cette affaire-là. Mais là, il y a des parents qui voient de l'info privée circuler. Puis on ne sait pas qui a fait ça, quel est l'intérêt. On sait qu'il y a beaucoup de tensions avec le ministère de la Famille puis les conditions de travail des employés, des techniciennes de services de garde. Donc, manque de place, vol de données. T'sais, ça commence à être un peu lourd. Puis c'est le ministre lui-même qui nous disait que ce ministère était hyper compliqué avec les différentes étapes. Puis rajouter à ça des embûches supplémentaires pour les enfants autistes. C'est la députée libérale Jennifer McCarron, qui a elle-même deux enfants autistes, qui a demandé au gouvernement de revoir les enjeux. Des témoignages, dit-elle, crève-cœur de parents pour qui il n'y a pas de place pour leur enfant. Et on comprend l'importance de l'intégration, l'importance que ces enfants-là puissent se retrouver avec les autres, puissent être suivis, encadrés, puis faire en sorte qu'ils socialisent. Bien, il semble que dans beaucoup de cas, ils sont malheureusement défavorisés. Des embûches administratives. Service au gouvernement où il n'y a pas d'embûche administrative. Puis là, on dit qu'il y a des consultations en cours, supposément là-dessus. Puis là, j'ajoute le dossier des pédiatres. Le trois quarts des pédiatres qui ne sont pas à l'aise pour prendre en charge des enfants qui font des dépressions. Fait qu'on a des enfants anxieux. On a des. À cause de la COVID, il y en avait avant aussi, là, mais disons que ça a augmenté. Et les troubles de santé mentale explosent, dit-on dans Le Devoir, depuis le début de la pandémie. Il y a plus de cas, puis les pédiatres ne seraient pas à l'aise. Va pour l'anxiété, mais quand on tombe dans des cas plus lourds, bien là, c'est difficile, comme le trouble obsessionnel compulsif, des enfants qui ont des idées suicidaires. Près de 40 % donc des pédiatres se disent à l'aise de prendre en charge des jeunes qui ont des troubles d'anxiété généralisée. C'est dur d'être un enfant, vous ne trouvez pas? T'arrives au monde, pas capable de trouver une place pour la garderie, l'anxiété, puis des parents anxieux qui rendent des enfants anxieux aussi, là, souvent ça joue. Et on aura l'occasion d'en reparler tantôt. Aussi, ce matin dans Le Devoir, la discrimination face aux Autochtones. Il y a une enquête donc qui démontre que dans les derniers mois, il y a une vingtaine d'Autochtones dans différentes nations du Québec, une douzaine de communautés qui ont raconté les mauvaises expériences qu'ils ont vécues quand ils sont allés chercher des soins. Alors, on a beaucoup parlé de l'hôpital de Saint-Eustache, par exemple, l'hôpital de Joliette. Et tout ça pour vous dire que l'affaire de Joyce Echaquan ne serait pas un cas isolé. Et ça viserait plusieurs, finalement, composantes du réseau de la santé. La fameuse ligne bleue. On va recevoir la ministre Rouleau ce matin. Tout ça pour vous dire que le coût jusqu'à maintenant de la ligne bleue, les exploitations, là, pour. En fait, les expropriations, je devrais dire, là, ça a quadruplé. En résumé, il y a 14 comités. On se passe la rondelle. Je regardais des documents préparés par la Société de transport de Montréal. Ils envoient ça au ministère concernant des pistes de solutions au mois d'août, là, dernier. Ils répondent au mois de novembre qu'ils n'ont pas de réponse. Sérieusement, là, il y a des coups de pied qui se perdent. Il n'y a pas un projet. Puis je regarde la ligne du REM. Ça va peut-être trop vite dans un sens, là, puis... Mais là, vous avez le maître d'œuvre, puis le ministère des Transports, puis Mme Rouleau, ministre de la Métropole, puis la Société de transport, puis les différentes agences qui existent. Il y a 14 comités. Et ça va nous coûter la totale. Puis là, ils sont en train de regarder ce qu'ils vont couper pour pas que ça défonce trop. Puis plus on étire, plus ça coûte des millions par mois. On va parler avec la ministre tantôt. Mais avouez que c'est vraiment là, fou raide. 6h23 minutes. Autoroute des Laurentides, Guylaine.